en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Nicolas Bavrez, vous êtes entré à la rue d'Ulm en 1980. Vous obtenez au cours de votre scolarité un diplôme d'études politiques de Paris et puis un DEA d'histoire à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne l'année suivante, tout en passant l'agrégation de sciences sociales. En 1986, vous soutenez votre thèse de doctorat en histoire sur le thème « Chômage et chômeurs en France dans les années 30 ». Cette même année, vous intégrez l'École nationale d'administration dans la promotion Montaigne. Au sortir de cette école, vous entrez à la Cour des comptes, où vous passez d'auditeur à conseiller référendaire. À partir de 1988, vous acceptez la charge d'enseignement à l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, ainsi qu'à l'Institut d'études politiques de Paris. Et vous êtes chargé de cours à l'ENA en 1995. Après les élections législatives de 1993, vous rejoignez Philippe Séguin, qui fut, avec Raymond Aron, une des personnalités qui vous ont le plus marqué. Vous êtes conseiller technique, chargé des problèmes économiques et sociaux auprès du président de l'Assemblée nationale qu'il est devenu. En 1995, vous passez dans le secteur privé. Mis en disponibilité de la Cour des comptes, vous occupez le poste de directeur de la communication et du développement du groupe Fimalac. Ayant rejoint le barreau de Paris, vous devenez avocat responsable du département de droit public dans le cabinet Salès, Vincent et Associés, puis dans le cabinet Franklin, Atala, Bavrez et Associés. Vous devenez associé du cabinet Brandford, Griffith, Bavrez, Coty en 2001 et le quittez en 2004 pour devenir associé du cabinet Gibson, Dunn & Grutcher, où vous êtes encore aujourd'hui. Vous êtes également membre du comité de direction de la revue Commentaire, du comité international de parrainage de la revue politique américaine et du comité éditorial de la revue Géo-Économie. Participant régulier aux conférences Bilderberg depuis 2007, vous appartenez au comité directeur de ce groupe. Si je m'en tenais à cela, je n'aurais évidemment rien dit de vous et de l'essentiel, car vous êtes avant tout une plume lue et une voix qui compte dans notre pays, avec une ligne directrice à la fois libérale, nationale et européenne. Vous avez été tout d'abord éditorialiste aux Échos, et vous avez écrit dans Le Monde, avant de devenir pour Le Figaro, de le devenir pour Le Figaro, et surtout pour être une des figures de proue du Point. Vous êtes l'auteur de 16 livres, je ne les citerai pas tous, je retiendrai bien sûr le premier, qui vous fit connaître du grand public en 1997, Les Trente Piteuses, et surtout La France qui tombe en 2003, qui a été vendue à 200 000 exemplaires, et vous valut à la fois d'être consacré comme un penseur profond et de vous voir accoler par certains l'étiquette de décliniste. Il est vrai que vos derniers ouvrages dressent le tableau d'un présent ou d'un futur qui font parfois frémir. Lettre béninoise en 2014, Danser sur un volcan, espoir et risque du XXIe siècle en 2016, chronique du déni français en 2017. Si vous étiez un écologiste politique, vous seriez sans doute qualifié de lanceur d'alerte. Comme vous ne l'êtes pas, on vous qualifie de décliniste, au mieux, ou bien de néo-réac, pour le pire. Toutefois, je tiens à souligner que votre écriture acerbe et parfois cruelle ne vise pas à l'auto-flagellation. Mais au sursaut, réveillez-vous, tel était le titre du livre que vous aviez écrit en 2012. Dans cette brève présentation, j'ai omis d'indiquer que vous êtes membre du comité directeur de l'Institut Montaigne et que vous y présidez le groupe de travail Affaires étrangères et défense. Cela explique peut-être en partie que vous ayez accepté de venir aujourd'hui pour répondre à la question que nous vous avons posée. Quelle stratégie de défense et de sécurité face aux nouvelles menaces? Je vous suis très reconnaissant d'avoir accepté notre invitation. Vous avez la parole.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, cher François, Mesdames et Messieurs les académiciens, je voudrais d'abord vous remercier beaucoup pour votre invitation. Et vous remercier d'autant plus que je pense que même si des figures militaires ont régulièrement siégé à l'Institut de France, il n'est pas très habituel qu'on s'occupe de problèmes stratégiques dans votre compagnie. Et pourtant, il est parfaitement normal et légitime de s'y intéresser particulièrement en ce moment. Quand on regarde l'histoire, on est frappé par le fait qu'elle n'est pas linéaire. Elle stagne et puis elle accélère brutalement. Et ses moteurs sont au nombre de trois, les révolutions, les grandes crises économiques et les guerres. Si nous prenons le XXe siècle, c'est un siècle qui commence en 1914, qui termine en 1989, qui a donc été rythmé par les trois grandes guerres mondiales, les deux premières ayant été dénouées par les armes et la dernière par l'effondrement intérieur de l'Union soviétique. Et quand on regarde la modernité, on s'aperçoit que ces guerres ont toujours été accompagnées de surprises stratégiques qui sont certes militaires, mais qui sont aussi parfois politiques ou sociales. La levée en masse avec la Révolution française, les guerres d'anéantissement de Napoléon, la guerre mécanisée qui commence avec la guerre de sécession aux États-Unis, les tranchées en 1914, le Blitz en 1939-40, puis l'arrivée du nucléaire, l'irruption du terrorisme le 11 septembre 2001 et aujourd'hui le surgissement de la guerre de l'information, de la cyberguerre, dont on a vu encore les dernières illustrations lors des campagnes électorales aux États-Unis et plus récemment en France. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que nous sommes clairement dans ces moments d'accélération de l'histoire, avec toute une série de révolutions qui interagissent entre elles et qui créent ce qu'on appelle des disruptions, c'est-à-dire des événements qui sont à la fois improbables, extrêmes et irréversibles. Nous en avons eu un exemple dans l'ordre économique avec le krach de 2008, qui est la plus forte secousse du capitalisme depuis le krach de 1929. Mais nous avons eu aussi l'irruption de l'État islamique, la mondialisation de la terreur, l'émergence d'une nouvelle forme de régime sur laquelle je reviendrai, les démocratures avec la Chine, la Russie ou la Turquie, l'arrivée de 1,3 million de migrants en 2015 en Europe, ce qui ne s'était pas produit depuis l'immédiate après-Seconde Guerre mondiale, ou encore, plus récemment, le choc du populisme sur le monde démocratique avec le vote du Brexit en juin dernier au Royaume-Uni et l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Donc, nous vivons clairement un moment de bascule de l'histoire qui a des conséquences très importantes pour l'Europe et pour la France, avec des fins de cycle historiques fondamentales. Premièrement, la fin du grand cycle de la domination de l'histoire du monde par l'Occident, qui a commencé à la fin du XVIe siècle et qui est en train de s'achever sous nos yeux, c'est-à-dire que l'Occident, les démocraties occidentales restent évidemment des acteurs qui comptent, mais elles n'ont plus le monopole sur l'histoire du monde. Elles ont perdu le monopole du contrôle du capitalisme. En 1700, la Chine et l'Inde représentaient chacune 25% du PIB mondial. C'est revenu à autour de 3-3,5% au milieu des années 70. Et aujourd'hui, la Chine, en termes de parité des pouvoirs d'achat, est à égalité avec les États-Unis ou un peu devant. Et quant à l'Europe, elle a dominé le monde, contrôlant 70% des terres émergées des populations en 1900. Et elle est redevenue plutôt un objet de l'histoire qu'un acteur, ce qui aujourd'hui se rediscute. Et puis, bien sûr, la particularité de ce que nous vivons actuellement, c'est la fin du leadership américain. Depuis 1945, les États-Unis réassuraient à la fois l'ordre mondial et le capitalisme mondial, et ceci est en train de s'achever. Donc, pour l'Europe, ce sont des bouleversements considérables, puisque l'Europe a vécu depuis 1945 avec une prospérité et des principes d'organisation et une sécurité qui lui étaient apportés largement de l'extérieur par les États-Unis. c'est aussi une modification fondamentale pour la France. Quand on regarde depuis 1945, d'un point de vue stratégique, la France a vécu quatre moments. Le moment des guerres coloniales, qui s'est achevé en 1962. La reconstruction d'une stratégie autour du principe de l'indépendance nationale et puis de la dissuasion nucléaire entre 62 et 91. Le retour de la guerre avec les Balkans, l'Afghanistan, le Golfe et puis le Sahel. Et le dernier moment qui s'est ouvert en 2015, c'est le terrorisme avec, de point de vue stratégique, une réalité très importante, c'est-à-dire le retour d'opérations militaires sur le territoire national avec ce qu'il est convenu d'appeler l'opération Sentinelle. Donc, je voudrais aujourd'hui revenir sur, essayer de montrer et de décrire ces changements et les réponses qu'ils appellent en quatre temps, revenir sur un environnement qui est devenu beaucoup plus imprévisible et beaucoup plus dangereux, vous montrer que les risques ont changé de nature et d'intensité, rappeler que la France et l'Europe sont en première ligne dans ce monde dangereux et imprévisible, et essayer de regarder quels devraient être les principes et les modalités d'une nouvelle stratégie globale de sécurité pour répondre à des menaces et à une situation qui sont inédites. Revenons tout d'abord sur l'environnement et sur son caractère beaucoup plus imprévisible et dangereux que ce à quoi nous avons été habitués. Quelles sont les grandes caractéristiques de la nouvelle donne qui émerge sous nos yeux ? Je crois que il y a quatre grandes forces qui sont très spectaculaires, qui sont pas uniquement stratégiques, mais aussi stratégiques. La première, c'est évidemment la mondialisation. Même si aujourd'hui, elle tend à se défaire partiellement ou à se restructurer autour de grands pôles régionaux, la caractéristique et le principal effet de cette mondialisation, c'est l'irruption, le surgissement, le redéveloppement des puissances du Sud, qui représentent aujourd'hui pratiquement la moitié du PIB mondial, plus de la moitié de la production industrielle, 48% des exportations, et qui, pour une partie d'entre elles, ont des ressources financières qui sont considérables. Ça se traduit à la fois par la dissémination de la puissance, la fragmentation et sa diffusion. Pour prendre un exemple très concret, Braudel expliquait que le capital, qu'on avait des économies mondes qui s'organisaient autour d'une succession de villes qui avaient pu être Gênes, Séville, Amsterdam, plus tardivement ensuite Londres ou New York. Aujourd'hui, il n'y a plus de métropole qui domine, c'est un réseau de métropoles mondes et qui sont interconnectées, et où on trouve aussi bien Los Angeles, San Francisco, New York, Londres, on verra ce qu'il en advient après le Brexit, mais aussi des villes comme Singapour, Hong Kong et bien d'autres. Donc, nous n'avons plus cette extrême concentration de la puissance. Elle se fragmente et nous avons des facteurs de puissance économiques, financiers, industriels, technologiques, militaires qui sont diffusés un peu partout dans le monde et qui se diffusent d'ailleurs aussi à des acteurs qui sont non étatiques. Deuxième grande force, la révolution numérique. Elle est spectaculaire. Quand on regarde une révolution technologique, on essaye de mesurer le temps de diffusion par le temps qu'il faut pour que la moitié de la population qui est pertinente, si je puis dire, soit touchée. Pour la machine à vapeur, il a fallu 160 ans. Pour le moteur électrique, il a fallu 100 ans. Pour l'ordinateur, 50 ans. Pour Internet et le téléphone mobile, il a fallu 10 ans pour que la moitié de l'humanité, donc aujourd'hui 4,5 milliards d'hommes, possèdent des téléphones portables et sont reliés à Internet sur 7,5 milliards. Cette révolution numérique pose donc, redistribue comme toute grande révolution technologique, les facteurs de puissance. Elle a aussi une fonction asymétrique, c'est-à-dire que les nouveaux entrants peuvent beaucoup plus vite se développer, et on voit ainsi la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, avec les frappes qui ont été réalisées par elles sur les banques coréennes en 2013, sur Sony à la suite de la diffusion du film The Interview en 2014. Plus récemment, la grande panne du printemps 2017 semble être venue de Corée du Nord. Donc il y a un coût d'entrée sur ces technologies qui est très faible et qui permet à des nouveaux entrants d'aller très vite. Et puis ça pose évidemment des problèmes stratégiques, mais aussi des problèmes moraux tout à fait considérables, puisque on va aller vers la robotisation du champ de bataille, ce qui veut dire qu'on peut avoir ce qu'on a commencé à voir avec les drones. Pour l'instant, ces machines sont encore sous contrôle de l'homme. On pourrait d'ores et déjà les faire travailler sans contrôle de l'homme. Elles ont une capacité propre d'apprentissage, comme on l'a vu avec la machine qui a battu le champion du monde de Go, et donc ça pose des problèmes stratégiques qui sont, comme toujours aussi, des problèmes politiques et moraux. Troisième révolution, le renouveau des passions nationales et religieuses, ces passions que Tocqueville jugeait à juste titre être les plus puissantes. Les idéologies du XXe siècle sont mortes, même si on trouve des vestiges en Chine avec le total capitalisme de Monsieur Xi, ou en Corée du Nord, ou encore à Cuba, même si cela commence, un semblant d'ouverture commence. Mais il est bien vrai que, contrairement à l'illusion de la fin de l'histoire qui a prévalu après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique, nous n'allons pas du tout vers le triomphe de la démocratie et la paix perpétuelle, mais nous avons vu refleurir, premièrement, le fanatisme religieux, c'est la mondialisation du djihadisme, avec des mutations des réseaux terroristes, de Al-Qaïda à l'État islamique. Et puis, nous voyons monter autour de ces passions à la fois nationales et religieuses une nouvelle forme de régime qu'on avait cru être des transitions vers la démocratie, mais qui en fait sont bel et bien aujourd'hui des adversaires des démocraties, et qui sont donc des démocratures, des régimes qui associent hommes forts, contrôle de l'économie et de la société, manipulation du suffrage universel quand il existe par un effort de propagande extrêmement massif, le recours à une violence qui est souvent une violence centrée sur les opposants, ça n'est pas la terreur de masse des totalitarismes du XXe siècle, et puis le fait de s'opposer prioritairement à la démocratie. C'est Vladimir Poutine qui a donné le modèle de ces régimes, mais qui tendent aujourd'hui à se multiplier. La Chine en est une autre illustration. La Turquie de Recep Erdogan, qui est une démocrature islamique aujourd'hui. Les Philippines de Duterte ou la Hongrie de Orban. Et par ailleurs, ces régimes peuvent former des formes d'alliances, comme on le voit par exemple aujourd'hui au Moyen-Orient, entre la Russie, l'Iran et la Turquie, encore en ce moment, dans la crise du Qatar, puisque ces trois régimes ont décidé d'apporter leur soutien au Qatar contre les sanctions qui ont été décidées par les États du Conseil de coopération du Golfe. La dernière grande mutation, c'est le retour et la mutation de la guerre. Clausewitz disait que la guerre est un caméléon, et le caméléon est en train de changer à nouveau. Donc, bien sûr, non seulement la guerre n'a pas du tout disparu, mais la guerre mute, elle devient de plus en plus hybride. C'est-à-dire qu'elle mélange la guerre et la paix, elle mélange l'intérieur et l'extérieur. Elle mélange la guerre régulière et irrégulière. Regardez par exemple la Crimée, qui est un chef-d'œuvre stratégique. Les Russes, en ayant déguisé des soldats en pseudo-miliciens, ont finalement récupéré la Crimée sans pratiquement tirer un coup de feu en moins de 10 jours. Donc, ça n'est pas pour légitimer cette opération, mais il faut bien reconnaître qu'elle a été réalisée de manière remarquable et avec beaucoup plus d'innovation et de maîtrise que ce à quoi on était habitué de la part des Russes. Donc, la violence se dissémine, se propage. elle se déploie sur un spectre qui est très large, qui va de la menace nucléaire de la Corée du Nord qui cherche à se doter des missiles qui lui permettraient d'atteindre les États-Unis, jusqu'à des individus qui se radicalisent en quelques jours et qui transforment des camions ou des camionnettes en armes de guerre. Donc un spectre qui est immense, qui va de l'individu un peu déséquilibré jusqu'à des grandes puissances disposant d'un arsenal complet de moyens de rétorsion. Elle donc se mélange entre l'intérieur et l'extérieur, et surtout, elle n'a pas de fin. Ce qui est intéressant et triste, si on regarde l'Afghanistan, l'Afghanistan est en guerre permanente depuis 1978 même. Regardons la Syrie. La Syrie, c'est une guerre sans fin. Pourquoi ? Parce que vous voyez que en Syrie, on trouve d'abord des guerres entre factions. Ensuite, c'est le champ de bataille un des champs de bataille importants des sunnites contre les chiites, donc la guerre de religion interne à l'islam. Ensuite, on a les puissances régionales, la Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite, et ensuite, on a les grandes puissances avec la Russie et les États-Unis. Et finalement, quand on regarde de près, aucun de ces acteurs n'a intérêt à la paix. Donc, d'abord parce que les acteurs locaux, celui qui est battu, ça signifie l'anéantissement physique. Donc, dans ces conditions, il vaut mieux continuer à se battre. Et puis parce que, même quand certains ont subi des revers, ça a été le cas du régime de Damas, à ce moment-là, les soutiens extérieurs interviennent pour rétablir la balance, ce qui a été fait spectaculairement par les Russes. Donc vous voyez qu'en guise de paix perpétuelle, en fait, on est passé à un cycle de guerres en chaîne et de guerres illimitées dans le temps. L'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, le Sahel. Et c'est vrai que la guerre illimitée est une guerre très difficile à conduire pour les démocraties. Elle pose évidemment des problèmes politiques, moraux, et elle pose des problèmes de fatigue de l'opinion, ce qu'on a vu très clairement au Royaume-Uni et aux États-Unis, et ce qu'on voit même, y compris en Israël, puisque c'est une démocratie qui est en guerre permanente depuis qu'elle a été créée. Tout ceci nous donne donc un monde beaucoup plus imprévisible et dangereux. Un monde où les acteurs de la guerre et de la violence se multiplient, où les États ont perdu le monopole de l'exercice de la violence légitime. Les États étaient un problème par leur caractère totalitaire au XXe siècle. Il en reste, mais ils sont aussi un problème par leur effondrement aujourd'hui, notamment au Moyen-Orient et au Sahel. On voit que des groupes criminels et terroristes peuvent acquérir des moyens d'action qui étaient classiquement ceux des États, y compris d'ailleurs dans un pays comme le Mexique, qui est un membre de l'OCDE et dont le tiers du territoire est contrôlé par des groupes criminels. Et puis, il y a l'hybridation de la criminalité et du terrorisme. Et enfin, le cyber permet, y compris à des individus, de pratiquer des attaques qui peuvent faire subir des dommages extrêmement importants, soit à de très grandes entreprises, soit à des forces de sécurité, soit à des institutions des nations libres. Donc, c'est non seulement un monde multipolaire par les États, mais c'est un monde qui est beaucoup plus diversifié par les acteurs qui peuvent exercer des actions avec des dommages importants sur les nations et les sociétés libres. La deuxième caractéristique, c'est que les cadres et les institutions qui encadraient la violence s'érodent ou s'effondrent. On voit un affaiblissement très clair de l'ONU, du FMI, de la Banque mondiale, un effondrement aussi, une remise en question des traités de libre-échange, le pacte transpacifique étant la première victime de Donald Trump, le refus de Donald Trump de reprendre à son compte l'article 5 qui fonde la solidarité au sein de l'OTAN, et à l'inverse, on a vu que la Russie a déchiré tous les traités qui fondaient la sécurité de l'Europe, les traités sur les forces nucléaires intermédiaires ou le mémorandum de Budapest qui avait dénucléarisé l'Ukraine en échange de l'intégrité de son territoire et de ses frontières. Donc, les cadres qui prévenaient vaille que vaille la violence et qui étaient en partie hérités de la guerre froide, ces cadres s'érodent. Et le troisième facteur de préoccupation, c'est sur lequel je vais par ailleurs revenir, c'est bien sûr la désintégration de l'Occident. L'Occident a perdu sa légitimité pour piloter et réguler le capitalisme en 2008. Et aujourd'hui, finalement, le Brexit qui divise l'Europe au pire moment, c'est-à-dire un moment où elle est cernée par des risques très importants, et la présidence Trump qui remet en question les valeurs, les institutions, la crédibilité de la garantie de sécurité des États-Unis, tout ceci, évidemment, renforce l'instabilité. Donc, au total, on a des problèmes de sécurité qui sont de plus en plus importants, des surprises stratégiques qui sont également en hausse, et un trou d'air des démocraties et de l'Occident, et des démocraties qui se trouvent confrontées à la fameuse phrase de Churchill, il faut prendre l'événement par la main avant qu'il ne vous saisisse à la gorge. Eh bien, aujourd'hui, c'est le risque, c'est d'être saisi à la gorge. Les risques, de fait, ce qui découle de cette situation, c'est que les risques changent de nature et d'intensité. Comme je vous l'ai dit, la violence est en train de s'échapper des cadres qu'on avait essayé, dans lesquels on avait essayé de la contraindre ou de l'endiguer. Donc, nous avons aujourd'hui trois grandes sources de risques. La première, bien sûr, c'est le terrorisme islamique. La mondialisation de la terreur. Donc, le terrorisme, au départ, dans les années 70, était instrumentalisé par les États. Il s'en est émancipé avec Al-Qaïda au début du XXIe siècle, et puis avec l'État islamique, il est devenu non seulement un État, mais beaucoup plus qu'un État, ce qui est extrêmement dangereux, parce qu'il y a trois cercles, le cercle du Levant, ensuite les organisations affiliées en Afrique du Nord, Maghreb, Mashrek, en Égypte, au Sahel, et jusqu'à Boko Haram au Nigeria, et évidemment, il y a le troisième cercle, qui est chez nous. C'est-à-dire que la troisième dimension de l'État islamique et ce vers quoi cette organisation va de plus en plus aller au fur et à mesure qu'il va être battu à Mossoul et à Raqqa, c'est que le futur du terrorisme islamique, c'est un réseau social au cœur des sociétés développées et notamment au cœur des sociétés européennes. Et du point de vue de l'Europe, vous voyez que nous avons du coup un arc de crise qui se déploie en fait du Pakistan jusqu'au Nigeria et qui couvre donc toute la partie qui jouxte l'Europe, le Moyen-Orient, la Turquie, le Mashrek, le Maghreb et ensuite toute la partie sahélienne, sachant que la Méditerranée n'est plus du tout une frontière étanche et donc la défense de l'Europe commence en réalité de l'autre côté de la Méditerranée. Ce phénomène terroriste est donc un phénomène extrêmement complexe qu'on ne peut pas réduire ni à la dimension intérieure ni à ce qui se passe au Levant et au Moyen-Orient. Et évidemment, la dimension intérieure est encore plus déstabilisante pour les démocraties. Deuxième facteur de risque, les démocraties. Je les ai décrites. Donc, ces régimes contestent un ordre mondial qu'elles estiment dominé par l'Occident et les démocraties. Et ces régimes sont en train, très clairement, de mettre en place des politiques expansionnistes. La Chine est en train de prendre le contrôle de toute la mer de Chine. Et à travers les routes de la soie, le programme dit Obor est en train d'investir tous les espaces qui sont libérés par le retrait américain. Elle instrumentalise y compris la Corée du Nord pour faire diversion et pour avoir les mains libres à la fois en mer de Chine et puis également pour cantonner les velléités protectionnistes des États-Unis. Pour la Russie, l'enchaînement est spectaculaire, la Crimée, l'Ukraine, la Syrie, une pression permanente aujourd'hui sur les États baltes et sur la Scandinavie, des cyberattaques sur les États-Unis, sur la France, demain sur l'Allemagne et sur l'Italie, le financement des partis populistes qui essayent de déstabiliser l'Europe. L'Iran a constitué, à cause des fautes de la diplomatie américaine, un empire chiite dans lequel on trouve aujourd'hui l'Irak, la Syrie, le Yémen, le Liban, le Hamas à Gaza. Donc c'est une expansion qui est tout à fait considérable. Et la Turquie aussi est en train donc de s'orienter vers une stratégie néo-ottomane sous la direction de Recep Erdogan, avec la volonté de se donner une zone de protection au nord de la Syrie, et puis de s'étendre et également de déstabiliser l'Europe, ce qu'on a vu à l'occasion du référendum sur la Constitution. Tout ceci, par ailleurs, est servi par deux choses. Un programme de réarmement massif. Le budget militaire de la Chine a augmenté de 150% dans les 10 dernières années. La Russie a fait un effort spectaculaire et elle a fait la démonstration en Syrie à travers les missiles de croisière, sa marine, son aviation, qu'elle disposait désormais non seulement d'une panoplie complète, mais que cette modernisation avait porté ses fruits et que tout ceci fonctionnait de manière tout à fait efficace. Et par ailleurs, la dernière chose, c'est qu'on voit un retour majeur du nucléaire. J'ai parlé de la Corée du Nord, qui a aujourd'hui une vingtaine de têtes nucléaires, qui en aura 50 en 2020, et qui cherche en ce moment à mettre au point des missiles balistiques qui lui permettraient de frapper la côte ouest des États-Unis, ce qui affaiblirait profondément la dissuasion américaine vis-à-vis des alliés des États-Unis en Asie, Taïwan, Japon, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande. La Russie a modernisé son arsenal également. Les Chinois travaillent aussi dessus. Donc, on assiste à un retour en force du nucléaire dans le monde d'aujourd'hui. Troisième risque, le cyber. Donc, le cyber, comme je l'ai indiqué, c'est une arme asymétrique. Les coûts d'entrée ne sont pas très élevés, et les cibles sont extrêmement variées, les forces armées, les entreprises, les institutions, la vie démocratique, comme on l'a vu aux États-Unis et en France. Donc on peut à la fois voler de l'information, on peut la manipuler, on peut détruire les systèmes adverses. Donc il y a toute une gamme d'actions par ailleurs, et des actions qui sont assez largement donc clandestine et difficile à croiser. Un dernier mot sur ces risques, c'est que vous voyez que là où les choses se compliquent, c'est que ces trois catégories de risques peuvent se croiser et se cumuler. Prenons la Syrie, on a à la fois le terrorisme islamique, l'État islamique, l'intervention de la Russie avec l'axe qui est formé avec l'Iran et la Turquie, en tout cas pour cette partie syrienne, et puis le cyber, puisque toute une partie de l'activité terroriste en Europe est pilotée depuis la Syrie et depuis Raqqa. Et donc, en face de ceci, là encore, l'élément de préoccupation, c'est que ce qui avait été mis dans le monde occidental pour gérer les risques de la guerre froide est profondément affaibli par le choc populiste sur le Royaume-Uni et les États-Unis en 2016, et que nous voyons donc une déstabilisation profonde de tout ce qui avait quand même peu réussi, plus ou moins bien, mais réussi à stabiliser l'ordre mondial depuis 1945. Les grandes alliances stratégiques qui étaient réassurées par les États-Unis, ou encore l'Union européenne qui avec la résistance à l'Union soviétique et la garantie de sécurité américaine, était un des piliers de la sécurité européenne. Donc, face à cet environnement plus dangereux, ces risques qui montent, on doit considérer que la France et l'Europe sont aujourd'hui en première ligne. L'Europe est étrange, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un trop-plein de risques et un vide de sécurité. Mais il y a un déni sur ces deux dimensions. Quand on regarde l'Europe aujourd'hui, c'est un continent qui est cerné. Des États baltes jusqu'au Maroc, il n'y a pas une zone qui ne soit pas en crise, en guerre, et avec des risques d'instabilité majeurs. Or, l'Europe est un continent vieux, riche, désarmé, entouré de peuples jeunes, pauvres et surarmés. Et ça, on n'a jamais eu dans l'histoire, ça s'est rarement terminé bien pour les premiers quand on avait ce type de confrontation. Donc nous avons toute cette arte de crise qui nous cerne, et puis il y a aussi les mouvements de la démographie, les migrants, donc un espace qui est un espace ouvert, Mais de même que l'euro a été construit sans aucune des institutions qui auraient permis de le stabiliser et de faire face à des chocs, l'espace de Schengen a été construit avec une absence complète de contrôle des frontières extérieures, ce qui est tout à fait irrationnel et dangereux, et nous en payons aujourd'hui le prix. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas seulement l'extérieur. L'Europe est aujourd'hui un théâtre d'opérations majeur pour les djihadistes et un peu pour les démocratures. Pour les djihadistes, je l'ai rappelé, c'est un des trois cercles de l'État islamique. Il y a pratiquement plus de semaines sans qu'il y ait des attentats dans l'un ou l'autre des pays d'Europe, avec différentes formes, soit la projection de commandos, ça c'est le type Bataclan, soit des individus qui se radicalisent, Londres ou Nice, soit des commandos organisés sur place, c'était le cas de figure pour le Charlie Hebdo. Et donc, il y a une variété des modes d'action qui est très grande, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Europe est un enjeu majeur pour les salafistes aujourd'hui, et que c'est bel et bien une cible prioritaire, et qui va l'être d'autant plus que l'État islamique sera battu au Levant. La deuxième dimension, c'est la pression de la Russie sur toute la frontière orientale de notre continent, et un effondrement de tout ce qui fondait la sécurité de l'Europe. Aujourd'hui, la garantie de sécurité américaine est très aléatoire, et comme je l'ai rappelé, tous les grands traités ont été soit violés ouvertement par la Russie, soit déstabilisés. Et pour vous montrer à quel point le désarmement est important, donc, et le déséquilibre. Donc aujourd'hui, 550 millions d'Européens consacrent 217 milliards de dollars à leur défense. 320 millions d'Américains consacraient 560 milliards de dollars à leur défense, et Trump vient de rajouter 50 milliards de dollars. Donc on a d'un côté autour de 220 pour aller vite, et de l'autre côté un budget qui, même s'il n'est pas voté, en tout cas va être de l'ordre de 600 milliards de dollars. Et puis il y a un problème d'efficacité. Donc en Europe sont en service plus de 178 systèmes d'armes contre une trentaine dans l'armée américaine. Donc au-delà des budgets, il y a une hétérogénéité des systèmes de défense européens qui est extrêmement préoccupante. Notre pays, maintenant, lui, est assurément et également en première ligne. La France est ciblée pour son histoire, pour la colonisation, pour les valeurs de la République, pour l'importance de sa minorité musulmane, 5 à 6 millions de personnes. Et il est clair qu'il y a une double influence, c'est-à-dire que la France influence l'Afrique et le Moyen-Orient, mais il y a également des influences de l'Afrique et du Moyen-Orient qui reviennent en France. Et de ce point de vue-là, il est très intéressant de voir qu'il y a un renouveau très net du discours anticolonialiste visant la France au Maghreb et en Afrique. La France est aussi ciblée pour ses engagements en Afrique, au Sahel ou au Moyen-Orient. Nous comptons environ 2000 djihadistes français dans les rangs de l'État islamique. On pense que le quart d'entre eux ont été tués, mais il en reste donc, y compris donc à Mossoul et à Raqqa. Et la France est un lieu très important pour la guerre de propagande qui a été engagée par le salafisme, avec deux grands financeurs, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Notre pays est aussi, depuis 2015, le troisième pays le plus touché en dehors des zones de guerre par le nombre des victimes du terrorisme, plus de 230 morts et plus de 800 blessés graves. Nous sommes en état d'urgence depuis donc le début de 2015, et toute une partie de la population et de la jeunesse française est progressivement retournée contre notre pays par la propagande djihadiste. Donc c'est une situation qui est une situation sérieuse. Elle est d'autant plus sérieuse que nous avons un énorme écart qui s'est creusé entre les ambitions de notre pays, les missions de nos armées et les moyens de la défense. La France est donc un des derniers pays était le dernier pays en Europe avec le Royaume-Uni à avoir un modèle complet d'armée. Mais aujourd'hui, ce modèle est en train d'imploser. Pourquoi ? Parce qu'il y a un surengagement de nos hommes. Il y a 30 000 hommes qui sont en opération. Il y en avait 34 000 quand Sentinel était déployé, 11 000 hommes. Nous sommes 30% au-dessus des contrats opérationnels qui avaient été prévus par la loi de programmation militaire. La France est présente sur 4 théâtres alors que 3 étaient prévus. La marine se déploie sur 5 théâtres contre 2 qui étaient prévus. Nous avons 20 avions déployés en opération extérieure contre 12 prévus, ce qui veut dire que tous nos équipages aptes aux missions de combat sont engagés et qu'il n'y a plus de réserves. L'usure des matériels et des hommes est inquiétante. Donc nous manquons de pilotes, nous manquons d'atomiciens, nous manquons de spécialistes du cyber et de la gestion de données. Et nous avons par ailleurs des ruptures de capacité très fortes en matière d'avions, d'hélicoptères, de drones, de missiles à moyenne portée ou de frégates. Et l'intensité de cet engagement se traduit par l'effondrement de l'entraînement. Donc l'entraînement de l'armée de terre a chuté de 60% à la suite du déploiement de Sentinelle. Aujourd'hui, un pilote vole 150 heures pour l'entraînement contre 180 qui sont les normes OTAN. Les bâtiments de combat de la marine s'entraînent un peu plus de 80 jours par an contre 100 jours prévus par par les normes OTAN. Et tout ceci a une raison très claire, c'est l'effondrement du budget de la défense. Il représentait 5,79% du PIB en 1960, 3,1% en 1980, 2,01% en 2000. Il est revenu à 1,77% du PIB en 2017. La défense a fourni 40% du total de toutes les économies de dépenses de l'État depuis une décennie. Les crédits qui étaient prévus par les deux dernières lois de programmation militaire ont été amputés de plus de 15 milliards d'euros. Et au-delà des pourcentages qui peuvent paraître abstraits, donc les données physiques sont importantes. Donc aujourd'hui, alors même que le budget de la défense a été relevé, la France investit donc en 2017 32,7 milliards d'euros dans sa défense. L'Allemagne, c'est 37 milliards d'euros. Et le Royaume-Uni, c'est 46 milliards d'euros. Donc, quand on compare le fait que, par exemple, un pays comme l'Allemagne n'a ni la charge d'opération extérieure, ni la charge de la dissuasion nucléaire, vous voyez qu'il y a maintenant une tension sur notre appareil militaire qui est une tension extrême et qui risque d'aboutir à ce qu'on a vu pour les Britanniques, c'est-à-dire que le surengagement britannique en Afghanistan et en Irak a fait qu'il y a eu un effondrement des capacités britanniques parce que, en plus, comme chez les Britanniques, ils n'avaient pas fait tourner les gens, eh bien, ceux qui ont fait l'Irak et l'Afghanistan ont évidemment cassé leur contrat en rentrant. Donc il y a eu une perte de compétences humaines et une usure des matériels chez les Britanniques qui fait qu'ils ont commencé cet effort de reconstruction, mais il faudra 10 à 15 ans pour que l'armée britannique retrouve ses capacités. Et l'outil militaire français est aujourd'hui confronté à la même difficulté. Alors, comment essayer de trouver des solutions ? C'est la quatrième partie. Donc, vous avez bien compris que la France et l'Europe sont vraiment à une heure de vérité. Donc, pour la France, c'est clair. Soit on réinvestit dans l'outil militaire, soit on va le casser. Si on le casse, par ailleurs, il est clair qu'il va falloir se désengager très vite d'un certain nombre de théâtres. Il y a des théâtres qui n'étaient certainement pas indispensables, on pense à la Centrafrique, mais en revanche, je pense que le Sahel participe vraiment de la défense de l'avant de l'Europe, qui est vitale pour nous, pour la France et pour tous les autres pays européens. Pour l'Europe, c'est un peu la même chose. Donc l'Europe a perdu avec le Brexit le tiers de son potentiel militaire, puisque grosso modo, la France représente un tiers, le Royaume-Uni représente un tiers, et tous les autres représentent le tiers qui reste. Donc, on a perdu un tiers de la capacité militaire avec le Brexit. Et par ailleurs, nous avons un président des États-Unis qui ne pouvait pas mieux montrer que pour lui la garantie de sécurité apportée par l'OTAN est conditionnelle, aléatoire, plus son imprévisibilité propre, qui est que compter aujourd'hui sur une garantie de dissuasion nucléaire dont l'ultime décideur est M. Trump, c'est vrai que ça amène à se poser quand même quelques questions, comme d'ailleurs l'a très clairement dit Mme Merkel. Donc nous sommes sommes devant la nécessité de remettre en cohérence nos doctrines, les missions, les moyens par rapport aux nouvelles menaces. Regardons d'abord les principes et voyons comment ça se décline ensuite pour la France et pour l'Europe. Donc, il y a, à mon sens, quatre grands principes qu'il faut avoir en tête dans ce nouveau monde. Premier principe, la défense est par ailleurs et par excellence le domaine des stratégies de long terme. C'est ce que j'indiquais, si on détruit un appareil de défense, il faut plusieurs dizaines d'années pour le reconstruire. Il faut donc à la fois anticiper et il faut être capable de résilience face à l'imprévisibilité du monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir garantir en toutes circonstances la continuité de la vie nationale. Et ce principe de résilience, finalement, c'est ce que disait Clausewitz quand il écrivait que la victoire revient à celui qui tient le dernier quart d'heure. Notamment face au terrorisme, ce qui est décisif, c'est de tenir le dernier quart d'heure. Deuxième principe, sécurité intérieure et extérieure. On ne peut plus avoir de réponse qui n'intègre pas les deux dimensions. C'est très clair pour le terrorisme. C'est vrai aussi pour les démocratures, puisque, comme je vous l'ai rappelé, un régime comme la Russie, par ailleurs, pèse, biaise la vie de nos démocraties. Donc, il faut pouvoir répondre aux deux. Quand on prend, par exemple, les migrations, c'est la même chose. Pour pouvoir répondre aux migrations, ça suppose de faire du co-développement ou de la co-gestion des mouvements migratoires avec les pays d'origine. Donc, ça suppose bien d'avoir une double réponse intérieure et extérieure. Troisième principe, il n'y a pas que de stratégie que de sécurité nationale. Aujourd'hui, c'est nécessairement aussi une réponse européenne à cause du grand marché, à cause de Schengen, à cause de la monnaie unique, à cause de la solidarité avec les pays avec lesquels nous avons une vraie communauté de destin. Et dernier principe, la sécurité n'est pas que l'affaire de l'État aujourd'hui, elle est aussi l'affaire des entreprises et des citoyens. Les entreprises, parce qu'elles doivent aussi se défendre, comme on l'a vu dans le domaine cybernétique, et puis les citoyens, parce que ce sont eux qui sont les ultimes garants de la liberté, et donc il faut à la fois qu'ils soient très vigilants dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et il faut aussi pouvoir compter sur et mobiliser certaines compétences à travers des systèmes de réserve. Alors, comment ça se traduit pour la France? Comment mettre en place une nouvelle stratégie globale de sécurité? Ça revient à se poser les questions fondamentales. Que voulons-nous faire? Quelle mission? Quelle priorité? Et quels moyens? Donc, ce que nous voulons faire, c'est assurément protéger le territoire et la population français, mais aussi garantir la sécurité de l'Europe. Donc ça suppose l'autonomie stratégique, le fait de conserver un modèle complet d'armée et d'être capable non seulement de coopérer avec les Européens, mais de mettre en place des systèmes de partage d'un certain nombre de moyens et des capacités d'action, au moins en coalition. Donc je pense que au niveau stratégique, il est fondamental de se doter d'un Conseil de sécurité nationale auprès du président de la République pour avoir une vision globale, pour déterminer une doctrine sur les interventions extérieures et extérieures. Ce qui est frappant, c'est que Sentinelle doit relever d'une véritable doctrine, alors que ça a été finalement le prolongement du plan Vigipirate. Ce qui est dommage parce que les militaires ont des compétences rares. Et d'ailleurs, le fait qu'ils soient devenus de plus en plus mobiles, qu'ils aient un mode d'opératoire de plus en plus militaire, renforce le nombre de problèmes, mais aussi produit des résultats bien supérieurs. Et puis, il nous faut une doctrine pour les OPEX, c'est-à-dire les opérations extérieures. Il est clair qu'une opération comme la Centrafrique n'a aucun sens. Et donc, oui, le président de la République doit pouvoir décider, mais il est certain qu'il faut fixer un certain nombre de critères objectifs en termes d'intérêt national qui soit menacé, en termes processus international d'approbation, en termes d'existence d'un gouvernement légitime, en termes de définition d'une sortie de crise politique, et enfin en termes de recherche d'alliés pour opérer à nos côtés. Au niveau opératif, ce qui est frappant, c'est que le maillon faible, c'est la coordination des opérations sur le territoire national. Le maillon faible, pour être clair, c'est le ministère de l'Intérieur. Je crois pas du tout, je crois que finalement, C'est en tout cas le mauvais endroit de créer une task force auprès du président de la République. Le niveau du président de la République, c'est le niveau stratégique. Le niveau opératif et tactique doit être au ministère de l'Intérieur. Et c'est là qu'il faudrait créer un centre de commandement permanent pour la sécurité intérieure. Enfin, il y a les priorités et les budgets. Donc, les priorités, ce sont d'abord les hommes. Comme je l'ai dit, on approche de la limite. Donc, il est clair que nous sommes allés trop loin dans la réduction des effectifs militaires, qu'il faut les augmenter progressivement, mais il faut de nouveau les augmenter. Pensez que l'armée de terre française aujourd'hui, c'est 77 000 hommes, donc c'est le Stade de France. Penser qu'au pire de l'été 14, et ça n'est évidemment pas à renouveler, mais qu'en une journée, la France a eu 42 000 morts, qui a été la pire des journées de cette guerre. Donc, c'était un pays qui comptait à l'époque un peu plus de 40 millions d'habitants, alors qu'il y a aujourd'hui 66 millions de Français. Donc, on ne va pas faire la Corée du Nord, où il y a 1 million de militaires pour 25 millions d'habitants, dont d'ailleurs 40% souffrent de famine. Mais, en revanche, il est clair que nous sommes tombés à un point déraisonnablement bas sur les effectifs militaires. Deuxièmement, les équipements. Nous avons des problèmes majeurs, comme je l'ai dit, sur tout ce qui concerne l'aviation, le ravitaillement en vol, le transport, les hélicoptères, les drones. Il faut savoir aussi qu'il y a 60% des véhicules de l'armée de terre qui ne sont pas protégés, aujourd'hui encore au Sahel. Donc on fait quand même prendre des risques à nos soldats qui sont des risques, en tout cas, pas acceptable compte tenu du niveau d'intensité des combats dans lesquels on les engage. Et puis, la troisième priorité, c'est la dissuasion nucléaire. Comme je vous l'ai dit, il y a un retour du nucléaire. On était en bas de cycle nucléaire, donc on a ramené le budget à 3,5 milliards d'euros. À partir de 2020, il va falloir moderniser les deux composantes, c'est-à-dire moderniser les têtes et aussi les vecteurs, donc les sous-marins, les missiles et les têtes nucléaires. Et ça suppose un effort de 1,5 à 2 milliards d'euros par an pendant une durée de 15 à 20 ans. Donc c'est un effort important, mais c'est un effort qui est à mon avis légitime. Je vais y revenir parce qu'après le Brexit, la France reste la seule puissance nucléaire avec une capacité autonome de décision dans l'Union. Et donc, si la France arrête son effort de nucléaire, ça veut dire que concrètement, on dénucléarise l'Union européenne. Il y a beaucoup de pays européens qui le souhaitaient et qui se moquaient de nous il y a quelques années. Même les Allemands ont changé complètement de discours. Et aujourd'hui, certains envisage même la capacité pour l'Allemagne de contribuer au financement de la force de dissuasion française. Le dernier poste fondamental, c'est la recherche, la technologie. Donc, l'industrie de défense française est puissante. On a vu ce contrat australien de 35 milliards, les contrats du Rafale. Elle exporte autour de 14 milliards d'euros par an, ce qui est un excédent très important. Et par ailleurs, il faut investir sur des technologies d'avenir. Il y a l'hypervélocité, le cyber, évidemment, la robotisation du champ de bataille, puisque nous allons devoir faire face à ce qu'on appelle les robots tueurs. Mais de fait, il faudra en tout cas savoir comment on répond d'un point de vue tactique à l'arrivée de ces nouveaux systèmes d'armes. Donc tout ceci suppose finalement que nous remplissions nos engagements. L'engagement, il a été pris en 2014 à Newport de consacrer 2% du PIB à la défense en 2025. On est à 1,77%, donc en réalité, cet effort n'est pas démesuré, mais il suppose d'augmenter le budget de la défense d'à peu près 2 milliards d'euros par an pour les à partir de 2018 et jusqu'en 2025. Ceci doit s'inscrire dans un effort plus large pour, au-delà de la maîtrise des dépenses publiques, mais pour rebasculer une partie des dépenses de transferts sociaux qui représentent 34% du PIB vers l'État régalien, la défense, mais aussi la sécurité intérieure qui ne représente que 0,5%. 0,7% du PIB, ou la justice qui est dans un état tout à fait déplorable. Donc cet effort de financier pour la défense doit s'inscrire dans cet effort en faveur de l'État régalien. Dernier point rapide sur l'Europe. On ne peut pas, comme je l'ai dit, parler de sécurité nationale sans parler de sécurité européenne. Je crois qu'aujourd'hui, la relance, la refondation de l'Europe doit être construite autour de la sécurité. Même M. Juncker s'en est aperçu puisqu'il a déclaré vendredi dernier à Prague que la protection de l'Europe ne peut plus être sous-traitée. C'est également ce qu'a dit à sa manière Mme Merkel après les sommets calamiteux du G7 et de l'OTAN avec le président américain. Donc, comme je l'ai dit, il y a une responsabilité de la France majeure. Après le Brexit, nous sommes le seul membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la seule puissance nucléaire. Nous sommes les seuls à avoir un modèle complet d'armée et à pouvoir entrer en premier sur un théâtre d'opérations complexes dans l'Union européenne. Nous sommes aussi les pivots entre l'Union et le Royaume-Uni avec les accords de Lancaster House signés en 2010. Donc, ceci est fondamental. Mais ceci ne doit pas nous empêcher d'inscrire cette position de la France dans la construction d'une Union européenne pour la sécurité. Je pense qu'il faut que ce soit un vrai nouveau pilier de cette Union européenne avec trois grandes missions. La lutte contre le terrorisme, la protection des infrastructures essentielles, y compris numériques, et le contrôle des frontières extérieures de l'Union. La sécurité, c'est un domaine où les citoyens européens plébiscitent l'Europe et où, pour l'instant, on ne répond absolument pas à leurs attentes. Et quand les citoyens européens, dans tous nos pays, demandent à ce qu'on contrôle les frontières extérieures de l'Union, eh bien, ils font simplement preuve de responsabilité et de bon sens. Et nous devons le faire, y compris en transformant Frontex en une vraie police des frontières extérieures de l'Union. Donc, vous avez vu que on a avancé des projets de création d'un fonds d'investissement qui devrait à terme pouvoir mobiliser 5 milliards d'euros, c'est très bien. On parle de relancer les programmes de coopération, mais il faut aussi avoir une vraie capacité d'intervention, à la fois sur le territoire européen et puis au profit de la stabilisation de la périphérie de notre continent. Voilà donc, pour toutes ces raisons, c'est bien un moment historique. Je rappelle que la sécurité est la première responsabilité d'un État. Le général de Gaulle avait tout à fait raison de rappeler que la défense nationale est la première raison d'être de l'État. La sécurité fonde à la fois la prospérité, le développement et la liberté. Donc, nous vivons ce changement de paradigme qui est évidemment gros de risques, mais aussi de chances, parce que ça fait beaucoup trop longtemps que l'Europe a remis le sort de sa prospérité, de son développement, de sa liberté, de l'avenir de sa civilisation entre d'autres mains. Et finalement, c'est ce qu'a dit Mme Merkel très bien quand elle a déclaré la semaine dernière, les temps sont révolus où nous, Européens, pouvions-nous reposer totalement sur d'autres ? Nous devrons lutter nous-mêmes en tant qu'Européens pour notre avenir et notre destin. Le général de Gaulle aurait pu dire exactement la même chose. Donc aujourd'hui, il est bien clair que je crois que tout le monde a compris que la liberté et la prospérité ne nous seront pas données au cours du XXIe siècle, mais qu'il nous faudra les conquérir. Et finalement, c'est tout à fait normal dans une démocratie. C'est Périclès qui rappelait que ce sont les pierres, non pas les pierres, mais les hommes, qui sont le véritable rempart des cités. Et c'est tout à fait juste. Et c'est bien pourquoi ce réarmement doit évidemment être un réarmement militaire et stratégique, mais il doit aussi être un réarmement politique et surtout un réarmement intellectuel et moral. Merci beaucoup.